bonjour à chacun, bienvenue pour ce temps de culte. Je crois que nous avons été bien préparés. Nous allons encore prier avant ce message ce matin. Seigneur, tu as voulu que ta parole soit pas simplement lu, Seigneur, mais prêché, Seigneur. Je te prie ce matin de venir à mon aide. Tu vois combien, Seigneur, nous pouvons... Tu dis que celui qui croit connaître ne connaît pas comme il faut, Seigneur. Je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que ta parole est la vérité, Seigneur, que toute ta parole est la vérité. Elle est bonne pour instruire, pour conseiller, pour reprendre. Seigneur, tu es un Dieu à la fois miséricordieux, compatissant. Tu dis que tu ne tiens pas le pécheur en même temps pour innocent. Seigneur, tu vois toute ce qui peut être cette tension dans nos vies entre ce qui est déjà accompli et ce qui est en cours, ce qui n'est pas encore là. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, toi, comme ses disciples. Nous avons besoin que tu nous ouvres les yeux. Tu avais annoncé ta venue, Seigneur, et ils n'avaient pas compris. Tu reviens encore et nous ne saisissons pas tout, Seigneur. Viens à notre aide. Sois béni, Père. Amen. Amen. Nous échangeions avec un frère cette semaine... me rappeler quelque chose quand on est en voiture ou en vélo ou en moto. Il est important d'alterner notre regard. On ne s'en rend pas compte, c'est un petit peu instinctif, mais c'est toujours important d'avoir la direction, la trajectoire. Et puis, en même temps, il faut avoir un regard auprès pour éviter les obstacles. Il en est un peu ainsi de notre marche chrétienne. On dit d'une part, à chaque jour suffit sa peine. Demain prendra soin de lui-même. Il dit que il est lampe à nos pieds, lumière sur le sentier. Et puis en même temps, nous avons besoin d'avoir en permanence à l'esprit notre destination. Nous sommes de passage, nous traversons ce monde, mais ce n'est pas notre destination. D'une part, le Seigneur a promis qu'il reviendrait. Il a promis aussi... qu'il créera de nouveaux cieux et de nouvelles terres, et il le fera en son temps. Et ce matin, je voudrais vous parler de ça, des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je voudrais apporter quelques précisions, parce qu'à travers ça, ça nous resitue où nous en sommes. Et nous sommes aujourd'hui dans ce temps de Dieu. Et cela, c'est important parce que nous avons besoin de tenir ferme et d'être stable dans notre vie chrétienne. Alors, je vous invite à prendre trois textes. Nous allons lire dans Ésaïe 65, à partir du verset 17, puis nous irons dans 2 Pierre 3, ces deux textes qui ont un lien, et puis un dernier texte dans Romains 15. C'est une lecture assez importante, mais je pense que c'est important. Peut-être certains n'ont pas forcément... l'occasion, et j'espère qu'à travers des textes assez nombreux que nous lisons lors des cultes, ça va donner envie, peut-être, d'aller plus loin. Je vous invite donc à lire dans Ésaïe 65, à partir du verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront, ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Je voudrais qu'on prenne ensuite dans la deuxième épître de Pierre. Au chapitre 3, nous allons lire tout le chapitre de Pierre 3. Les deux lettres de Pierre sont des lettres d'avertissement, vraiment d'exhortation, hein, à tenir ferme, à patienter, à, voilà. Dans le deuxième Pierre, au chapitre 3, il dit ceci. « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, nous venons de les lire, et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leurs propres convoitises et disant, où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, que quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour du Seigneur, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et enfin, un dernier texte, quelques versets dans Romains, la lettre aux Romains au chapitre 15. Les versets 4 à 7. Or, Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les textes sont sans ambiguïté. En effet, de même que les effets de la chute ont impacté l'homme jusqu'à ce jour, y compris nous qui avons reçu la vie du Seigneur, nous vivons dans un corps qui, jusqu'à ce qu'il soit régénéré, est marqué par la chute. Il y a la puissance du péché qui habite en nous, nous revenons fréquemment sur ce thème. De la même façon, la création tout entière est marquée également par la chute. Nous ne devons pas perdre cela de vue. Le Romains 8, encore verset 20, nous le dit. La création tout entière a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie. Frères et sœurs, nous ne sommes pas encore à la maison. Nous vivons encore sur cette terre, mais ce qui nous différencie des hommes et des femmes que nous côtoyons chaque jour, c'est que nous connaissons la destination. Mais au fait, est-ce que chacun la connaît bien, cette destination ? Lors de sa deuxième venue, qui est décrite également dans Ésaïe 11, au verset 6 à 16, le verset 11 souligne « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple ». Dispersés en Assyrie, etc. Repositionnons un peu les choses. L'Écriture nous enseigne sur différentes périodes qui se déroulent dans l'histoire, en fait, de ce monde. Il y a eu l'Éden, et puis la chute, et puis je vais très vite, et puis différentes périodes où Dieu... La chute a marqué vraiment une séparation. L'Éden a été fermé, on l'a rappelé hier, à ceux qui aspirent à être baptisés, il y a eu vraiment une séparation là. Mais très vite, on voit que Dieu est un Dieu d'alliance et il va manifester son amour à travers différentes alliances. L'alliance en Noé, l'alliance avec Abraham, puis en Moïse, puis enfin par le Fils bien-aimé. Ce qui nous est rappelé dans Hébreux, hein, après avoir parlé de différentes manières, Dieu dans les derniers temps a parlé par le Fils. Nous vivons donc, nous, dans ce temps de la grâce, puis viendra le retour du Seigneur, un règne sur cette terre, semble-t-il, pendant une longue période, est-ce 1000 ans, je ne sais, puisque nous venons de lire que pour lui, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans comme un jour, je suis extrêmement prudent. Nous avons dans la Bible beaucoup d'éléments, et il était souligné tout à l'heure à travers les disciples d'Emmaüs, il disposait de toutes les Écritures, de tout l'Ancien Testament, où il y a de nombreux passages prophétiques qui annoncent la venue de Jésus. Et pourtant, lorsque Jésus est venu la première fois, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été tellement reconnu. Donc, restons dans une grande humilité sur ces sujets, parce que, dans le fond, même si on analyse, si on regarde toutes les prophéties des Écritures, est-ce que, si nous, nous avions vécu au moment où Jésus est venu, nous aurions mieux compris? Est-ce que nous aurions bien compris le sens de sa venue? Alors que c'est annoncé clairement dans Ésaïe 53, par exemple. Alors nous, on dit, bien sûr, tout ça, c'est très clair. Mais est-ce que nous aurions su? De la même manière, l'Écriture nous dit, avec un certain nombre d'éléments, qu'il reviendra. Ça, c'est certain. Qu'il règnera. Mais ensuite... sur ce temps du millénium et le temps des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, comment tout ça va s'agencer, je ne vais pas très loin là-dessus. Mais c'est certain, le Seigneur reviendra, et il est certain, un jour, cette terre où nous vivons, marquée par la chute, sera consumée par le feu, elle ne sera plus consumée, elle ne sera plus envahie par l'eau. Nous avons la promesse de Dieu sur ce sujet, donc la parole est très claire là-dessus. La terre où nous vivons,
La terre où nous passons notre existence sera un jour consumée par le feu. Et nous sommes appelés à vivre sur une autre terre, dans d'autres cieux. Ne me demandez pas exactement comment ils seront faits, mais je sais que ce ne sera pas ça. Et c'est à ce moment-là que le loup paîtra avec l'agneau. On va voir ça quand même. Et donc on est bien d'accord que ce n'est pas en ce moment. Donc il y a eu tous ces temps. Nous ne savons pas tout. Ce que nous savons, c'est qu'il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de larmes. Frères et sœurs, nous sommes invités à tirer de cela, de cette promesse, la source de notre joie. Vous avez sans doute remarqué que le verset 18 d'Ésaïe 65 nous dit « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. Allons chercher notre joie au bon endroit et dans les bonnes promesses. » C'est là ce qui doit faire notre joie. Quoique maintenant, il le dit dans la première à Pierre, nous soyons pour un peu de temps éprouvés par toutes sortes d'épreuves afin que l'épreuve de notre foi, plus précieuse que l'or et l'argent qui pourtant est éprouvée au feu, soit pour nous une occasion de persévérer et de tenir ferme jusqu'au bout. Est-ce que c'est là, dans cette promesse, qu'un jour nous serons sur ces nouvelles terres, est-ce que c'est là que nous tirons notre joie? Est-ce que c'est là, de là, que nous attendons notre joie? Pas si sûr, nous sommes obligés de constater que il y a ce que j'ai appelé des raccourcis et des maldonnes. Cette promesse annoncée par Ésaïe nous concerne. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, c'est pour ça que j'ai lu ce texte, il fait référence dans ses lettres aux communautés chrétiennes qu'il exhorte et avertit, car plusieurs courants prenant parfois circulent parfois dans les églises, à l'époque déjà, et remettent cela en cause. Parfois explicitement, par des doctrines qui énoncent avec une sagesse terrestre et charnelle que le royaume de Dieu, en fait, ce temps des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, vont venir dès maintenant par les chrétiens qui, par leur vie, vont progressivement transformer et améliorer ce monde. Je ne rentre pas dans le détail des doctrines, mais c'est la pensée, par exemple, que l'on va retrouver dans l'Église catholique romaine. Que, finalement, les chrétiens, par leur vie, vont progressivement transformer ce monde et que, finalement, ça va la préparer pour le retour du Seigneur dont il parle peu. D'autres vont plus loin et disent que, finalement, c'est aux chrétiens de prendre les commandes pour que ce monde, pour mettre le christianisme en place, pour mettre le royaume en place. La parole nous dit, par contre, à travers les textes que nous avons lus, que comme ce temps tarde, il n'est pas là aujourd'hui, il n'était pas là du temps des épîtres de Pierre, il y a 2000 ans, et déjà il y a 2000 ans, des moqueurs se levaient pour dire votre truc, ça va bien, quoi. Ça fait déjà un paquet de temps qu'on nous le promet, et c'est toujours pas là. Et 2000 ans après, frères et sœurs, ce n'est toujours pas là. Vous avez constaté que nous ne sommes pas dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Vous avez constaté que le lion et l'agneau ne pèsent pas ensemble. Vous avez constaté que les enfants, comme c'est dit dans Ésaïe 11, les bébés ne jouent pas par terre au milieu des serpents et des aspics. Donc nous ne sommes pas dans ce temps. Alors Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu nous promets la joie, mais en attendant, Seigneur, où en sommes-nous? Eh bien, aujourd'hui, frères et sœurs, ne soyons pas surpris, nous sommes dans le temps des moqueurs, de l'impiété, de l'orgueil et de l'arrogance. Dans le temps de faux docteurs qui prennent des raccourcis, qui nous présentent des raccourcis. C'est développé dans le deuxième chapitre de la deuxième lettre à Timothée, je vous invite à le lire, c'est extrêmement actuel. Et c'est très grave parce que il est dit dans cette lettre que ces choses qui nous tentent Parce que c'est long d'attendre. C'est long d'attendre. Tandis qu'on traverse cette existence, c'est long d'attendre. Et il semble qu'il y a des chemins qui soient plus sympathiques. Et Pierre nous avertit en disant, le gros problème de cela, c'est que ça va détourner des âmes mal affermies. Et ça, c'est une grande douleur. Il dit que des âmes qui viennent d'être arrachées à la mort, qui ont connu le salut en Jésus-Christ, qui ont vraiment connu ce salut en Jésus-Christ, qui ont été transformées, qui ont reçu cette nouvelle naissance, ces hommes, ces femmes, à peine arrachés à la mort, sont à nouveau séduits et réembarqués. Frères et sœurs, et je m'adresse à ceux qui, j'allais dire, ont des années de conversion, mais surtout sont affermis dans la parole. Et je vous exhorte, et je veux vous encourager à tenir ferme et à parler à ceux que vous voyez en danger. Ça ne peut être le simple travail de responsable. L'Église locale, certes, il y a des responsables, mais il y a des pierres vivantes, des hommes et des femmes fortes dans la foi. Fortes pourquoi ? Parce qu'elles ont été nourries régulièrement, par la parole de Dieu. Et leur foi ne repose donc pas sur des fables, sur des émotions, mais sur la vérité. Alors ils peuvent en être témoins, parce que leur foi a déjà été éprouvée, ils ont déjà patienté, ils ont déjà subi des épreuves, et ils ont tenu bon. Alors, ils peuvent être des témoins authentiques, véritables, pour ceux qui viennent d'être arrachés. Frères et sœurs, nous avons besoin de cela. Ne nous croyons pas si forts. Les influences du monde qui nous entoure peuvent nous ébranler. Et notre paix alors s'envole. Toute l'histoire du peuple de Dieu est marquée par des écarts de toutes sortes des croyants, sous l'influence des peuples et des nations qui les entourent et exercent diverses influences sur lui. Reprenez tout l'Ancien Testament. Combien de fois le Seigneur met en garde : ne vous comportez pas comme les nations. Je vous ai arraché de ces nations. Vous avez été marqués. Le problème, c'est que nous avons été marqués. Et si ce n'est pas complètement éradiqué, on peut être repris. D'autres égarements sont venus, il faut bien le dire, du fait que les serviteurs de Dieu eux-mêmes ont pris des initiatives pour donner un coup de main à Dieu ou ont pris des décisions sans consulter. Je pense à quelques exemples. Josué, lors de la conquête, a consulté l'Éternel. Puis à un moment, il a pensé que ça allait bien. Donc il a pu consulter l'Éternel. Il s'est retrouvé avec les Gabaonites qui ont ralenti la marche. David. À un moment, après le succès, alors qu'il avait connu des années d'épreuves, où Dieu était fidèle, où il a imploré Dieu, où il a vraiment une conduite exemplaire, ne portant pas la main sur Saül, qui pourtant était déjà rejeté aux yeux de l'Éternel, eh bien, ne nous croyons pas plus forts que David, à un moment où tout allait bien. Un, il a chuté, mais je veux le faire allusion, ça nous a été rappelé par Jean-Luc il y a quelque temps. Au moment où tout allait bien, il a fait un recensement que Dieu ne lui avait pas demandé. Finalement, il détournait la gloire de Dieu. Moïse, qui a devancé Dieu pour le salut du peuple. Reconnaissons, je reconnais, que je n'échappe pas, je n'ai pas échappé à cela. Nous ne pouvons pas précéder Dieu. Régulièrement, nous sommes impatients et finalement, nous ne sommes pas dans le temps de Dieu et nous sommes amenés à faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Ainsi, aujourd'hui, le monde religieux est très occupé à construire des stratégies d'expansion notamment à travers l'évangélisation du monde. Il est bon, nous sommes appelés, c'est notre appel à partager la bonne nouvelle de l'évangile autour de nous. Encore faut-il que ce que nous faisons d'un côté ne soit pas détruit par ce que manifestent nos vies d'un autre côté. Nous sommes impatients. Et du coup, les promesses, nous les perdons de vue. Alors concrètement, que faire ? Vigilance. Paul, dans ses deux lettres, testament, emploie ces termes d'avertissement de nombreuses fois. Je voudrais encore lire, j'aime beaucoup ce passage, qui montre l'insistance, la solennité, on pourrait dire, de l'avertissement donné par Pierre. 2 Pierre 1, versets 12 à 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Et il le développe vraiment dans ses lettres. Vigilance donc, frères et sœurs. Vigilance parce que revenons sans cesse à la source. Que dit le Seigneur ? Ne prenons pas simplement un verset. Il est dit que nous devons regarder les Écritures selon l'analogie de la foi. Il y a un certain nombre de règles, je dirais, de base pour interpréter et recevoir l'Écriture. Utilisons les passages qui sont clairs et nets pour éclairer les moins clairs. Ne prenons pas les plus obscurs pour en faire une doctrine. Prenons les passages. Regardons ceux qui vont dans le même sens. Il y a des thèmes qui sont récurrents dans la parole de Dieu. Deuxièmement, sobriété. Nous sommes appelés à la sobriété dans ces textes. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. En attendant cette promesse, mais l'attendant avec foi et ferme assurance, nous trouvons la force pour une marche quotidienne sainte et pieuse, c'est à cela que nous exhorte Pierre, car c'est à cela que nous sommes appelés. Vous allez dire, ce n'est pas très enthousiasmant, mais c'est ce qu'il nous dit. C'est la vue, l'espérance, l'assurance que nous sommes appelés à vivre dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Et c'est là ce qui doit faire notre joie. Si cela est bien clair, bien établi dans nos cœurs, alors nous trouverons toute la puissance nécessaire pour vivre un quotidien sobre, dans la piété et dans la sainteté. Supportant alors les risées, les moqueries, s'il faut les supporter. Puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Frères et sœurs, peut-être je me répète, mais les choses vont tellement vite. Alors moi, ça m'importe peu que les choses se passent dans un an, dans 10 ans ou dans 50. Ce que nous pouvons mesurer aujourd'hui, c'est la vitesse à laquelle la pensée du monde s'écarte, s'oppose de plus en plus violemment à la pensée de Dieu et à sa parole. Ça, je n'ai pas besoin d'attendre demain pour le constater, et je peux mesurer aujourd'hui qu'entre il y a 5 ans et il y a 10 ans, les choses se sont accélérées, se sont augmentées. Moi, j'aime beaucoup les maths, j'aime beaucoup les courbes, les exponentielles. Alors, je ne sais pas quel est le paramètre de la pente de l'exponentielle, mais peu m'importe. Ce que je vois, c'est qu'il y a une accélération. Donc, cette exhortation, elle doit être encore plus forte parce que la pression augmente et va augmenter. Toujours un petit peu d'actualité spirituelle de ce monde. Vous savez que la loi 1905 va être révisée pour contenir, avoir un islam de France intégré, etc. Mais derrière ça, ce qui est en projet, je ne sais pas si ça passera, frères et sœurs. C'est-à-dire si ça passera ce coup-ci ou le coup suivant. Parce que ça passera. C'est extrêmement subtil. Il y aura même peut-être des facilités pour financer même des lieux de culte. Mais ce qui sera contrôlé, c'est ce qui est dit. Frères et sœurs, voilà les projets. C'est pas voté, d'accord. Mais voilà les projets. Et là, on reconnaît le prince de ce monde. Nous allons être éprouvés, parce que la tentation sera forte dans quelques temps, d'avoir une petite subvention. Frères et sœurs, préparons-nous. Ce n'est pas l'œuvre de quelques-uns. Il faut que nous connaissions la parole. Il faut que nous connaissions sur quoi est fondée notre foi. Nous pouvons faire toutes les œuvres et je me l'applique. D'une certaine façon, je me repens de ces choses. On peut faire tout un tas d'œuvres. Mais ce qui est spécifique de ce que nous avons reçu, c'est de savoir que Christ est ressuscité, qu'il y a le pardon des péchés et que c'est encore le temps de la grâce. Alors ça, nous avons à l'annoncer, nous avons à le manifester dans nos vies. Ne soyons pas découragés parce que peut-être un tel se dit « Mais moi, j'ai amené personne au Seigneur. » As-tu annoncé Christ ? As-tu été témoin ? Oui, le Seigneur sait. Peut-être tu verras là-haut que tu en as amené. Mais pour l'instant, ne crois pas que ta vie est inutile. Marche dans la sainteté. Et même ceux qui te calomnient verront ta vie. Ça les secouera. Ils te calomnieront peut-être. Ils se moqueront peut-être. Mais en rentrant chez eux, ils diront quand même, celui-là, c'est pas comme les autres. Voilà l'encouragement que nous devons recevoir. Voilà l'encouragement que nous devons recevoir. 2 Pierre 3, verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, en attendant les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui est le sujet de notre joie, c'est pas qui sera, qui doit être dès aujourd'hui le sujet de notre joie. Parce que la différence, puisque tu es à Christ, c'est que tu sais ces choses. Tu sais où tu vas. Et c'est ça qui fait maintenant ta joie. Pas qui la fera demain, qui fait maintenant ta joie. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensibles dans la paix. Seigneur, que cette vérité, cette réalité que tu m'annonces dans ta parole fasse son effet dans ma vie. Seigneur, je confesse que je ne suis pas toujours dans la paix et que je m'inquiète et que je voudrais faire des choses et je voudrais que ça avance. Pardon, Seigneur. Nous sommes appelés à le connaître davantage, ce qui nous conduira à l'aimer véritablement pour qui il est et non dans un sentimentalisme idolâtre. Paul nous invite à nous nourrir des Écritures qui nous consolent et nous donnent la patience. Romains 15. Ainsi, nous ne sommes plus trompés et nous sommes équipés, conscients que notre marche chrétienne sur cette terre comportera des combats, parce qu'il le faut pour que notre foi soit éprouvée. Mais si nous connaissons et mesurons la promesse, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous tiendrons jusqu'au bout. Un autre aspect souligné dans Romains 15, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon le Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Tout le monde, tous les chrétiens veulent l'unité. Nous avons là une clé pour avoir la vraie unité. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une même bouche. Si nous sommes tous les yeux fixés sur la promesse, et bien d'accord que ce n'est pas sur cette terre que nous connaîtrons le bonheur et la félicité absolue, nous connaîtrons, parce que quand on vient à Christ, il nous libère, il libère des captifs, il libère des captivités dans nos vies, et nous avons la joie déjà de le connaître. Et puis il y a des choses qui changent concrètement dans les vies, c'est clair qu'une conversion doit y avoir des fruits et des manifestations claires de changement qui sont au bénéfice. Nous connaîtrons un certain bonheur, mais il nous est dit, avec les tribulations sur cette terre. Mais la félicité éternelle, ce n'est pas ici que nous la connaîtrons. Nous connaîtrons, cela nous évitera d'être frustrés et amers. C'est ça notre problème souvent. C'est que finalement, on dit Seigneur, on prie, etc., on demande tout pour ici-bas. Et on est frustrés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Tout est accompli dans les cieux où Christ déjà règne. Il a remporté la victoire sur la mort, c'est exact. Nous le savons, et c'est là ce qui fait notre force et notre joie. Mais le dernier ennemi qui sera mis sous ses pieds, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, verset 26. Ici-bas, frères et sœurs, nous connaissons encore la maladie et la mort. Peut-être certains refusent cela et ne comprennent pas que tous ne sont pas guéris, malgré la parole si souvent rappelée. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous le serons en totalité lorsque notre corps sera régénéré. Le Seigneur permet, pour soutenir notre foi, pour manifester sa puissance, pour manifester l'Évangile et pour faire croître son royaume, que nous voyons des guérisons, des résurrections dans certains lieux. Oui, mais Seigneur, frères et sœurs, recevons aussi que parfois nous ne serons pas guéris. Ne me faites pas de procès, c'est la vérité. Si notre corps extérieur, il est aussi écrit, si notre corps extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Et aussi, 1 Corinthiens 15, versets 53-55, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Déjà, il a la victoire, mais tout n'est pas encore manifesté. Mais déjà, il a la victoire. Et notre privilège, c'est de le savoir, d'en être absolument certain. Frères et sœurs, notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cherchons à connaître davantage, même si nous savons que nous connaîtrons ici-bas que partiellement, mais suffisamment pour tenir ferme face aux ruses du diable qui nous poussent ou dans le découragement ou dans la présomption. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Même ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, nous n'avons pas tous les détails. Cette nouvelle terre sera-t-elle cubique? La Jérusalem aura-t-elle les fondements comme ils sont décrits dans la parole? Frères et sœurs, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que cette terre, celle-là, sera consumée et que nous vivrons ailleurs. Aujourd'hui, je connais d'une manière obscure comme dans un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai. Il ne les a pas dit en totalité, mais une chose, un verset merveilleux. Je connaîtrai comme j'ai été connu. Je connaîtrai le Seigneur comme lui m'a connu. Je l'aimerai comme lui m'a aimé. Frères et sœurs, je sais que je ne mesure pas combien le Seigneur nous aime. Mais nous avons la promesse que nous le serons, nous le verrons face à face. Que nous soyons ce matin encouragés par cela. Nous avons l'espérance, frères et sœurs. Nous avons des promesses, c'en est une. Je voudrais, pour terminer, lire le passage de Habacuc. J'étais à mon poste, Seigneur, que je le sois. et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste. Frères et sœurs, nous sommes justes si nous avons reconnu que nous avions besoin d'être justifiés et purifiés par le sang de Jésus-Christ. Même si nous chutons, nous sommes justes si nous croyons. Nous avons cru et nous avons connu. Le juste vivra par la foi. Christ est ressuscité, ça c'est une réalité déjà accompli, Christ reviendra et nous vivrons sur des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ça, c'est la promesse, ça, c'est notre espérance. Nous prions. Et avant de prier, je vais prier maintenant, puis on prendra ce chant. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Seigneur, notre Dieu, pardon, Seigneur, de vivre ici-bas, d'être bien souvent guidé par la recherche d'un bonheur, d'une consolation complète ici-bas. Merci Seigneur pour la consolation que tu nous as donnée par ce si grand salut. Merci de ce que déjà, Seigneur, nous avons compris ce qui s'était passé. Nous avons compris ton amour manifesté à la croix. Mais Seigneur, tu nous as donné aussi des promesses. Pas comme des joujoux, Seigneur, parce que tu veux que nous saisissions ces promesses pour tenir jusqu'au bout, pour être témoins jusqu'au bout, Seigneur. Que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Que tu es Dieu. Que tu es celui qui règne. Que tu es celui qui domine toutes choses. Que tu es celui, que tu es l'homme par lequel le jugement sera apporté, parce qu'ainsi en a voulu le Père. Seigneur, fais-nous grandir dans la foi en tes promesses, que nous demeurions fermes. Seigneur, donne-nous alors compassion, une vraie compassion pour les hommes et les femmes que nous côtoyons et qui ne savent pas. Seigneur, nous crions à toi parce que nous voudrions qu'ils sachent. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes la vie. Donne-nous de faire notre part, Seigneur, d'annoncer et d'être témoin de l'espérance qui est en nous, que tu nous as donné de saisir. Sois béni et sois loué, Père. Amen.